Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Nous venons de chanter « Père, tu domines les tempêtes ». Alors justement, ça tombe très bien, nous allons lire dans Actes 27 et lire un texte qui parle d'une grande tempête. Parce qu'il y a plusieurs sortes de tempêtes, est-ce que vous le savez? Il y a la petite brise, il y a le vent qu'on appelle la bise. Et il y a un vent qu'on appelle le Mistral, ça veut dire le maître. Dans Actes 27, nous allons lire à partir du verset 9, qui nous rappelle que Paul avait jeûné et prié. Actes 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car les popes, que même du jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Carillon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau. Ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'absence, dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent tous. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Amen. Et vous lirez le chapitre 28 et vous verrez que les épreuves pour Paul ne sont pas terminées. Vous la connaissez cette histoire, c'est la quatrième tempête que l'on trouve dans la parole de Dieu. Alors on va lire, garder la page bien sûr, venez avec moi dans le livre des psaumes au chapitre 66, un texte de plus qui nous rappelle que Dieu, eh bien, c'est ce qu'il doit faire. Psaume 66, verset 10. Je suppose que ça fait partie de ces textes que vous connaissez bien puisqu'ils font partie des psaumes, mais c'est bien de le relire. Psaume 66, verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Vous y êtes ? Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Les tempêtes. J'ai donné plusieurs titres à ma prédication. Le premier titre, c'est la tempête de Paul. Vous comprendrez pourquoi j'ai donné plusieurs titres à ma prédication. La volonté de Dieu, pour commencer. Pour vous, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que ça compte, la volonté de Dieu ? On le prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais c'est vraiment, est-ce que c'est ce qui compte le plus ? Est-ce que vous voulez dire, oui, je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie ? Beaucoup de chrétiens vont dans les églises, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils vont à l'église, ils n'obéissent même pas. Comment voulez-vous qu'ils puissent même prier que ta volonté soit faite ? Mais un chrétien, lui, il veut faire la volonté de Dieu. Si nous sommes là ce soir, normalement, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle passe toujours par l'adversité. Vous l'acceptez ça ? La volonté de Dieu, c'est comme ça. Ça passe par l'adversité. On vient de le lire dans le psaume 66. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Le Seigneur, il veut nous rendre forts, fermes. Cette expression, elle revient souvent. On pourrait le lire d'ailleurs dans Philippiens. Parce que quand même, c'est le contraire de du doute à la fermeté, dans la foi. Regardez, dans Philippiens au chapitre 1, ça vaut la peine de prendre une concordance. Je vous encourage à le faire. En plus, aujourd'hui, tout le monde peut lire par une concordance. Vous voyez, dans Philippiens au chapitre 1er, regardez ce que Paul veut. Il veut que les chrétiens soient fermes. Je le répète, c'est le contraire du doute ou de la faiblesse. Philippiens 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit. » Voyez, Paul dit « Je veux entendre de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » On le voit plusieurs fois, « Soyez ferme, inébranlable, tenez ferme après avoir tout surmonté, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, etc. etc. » Si vous avez une concordance, vous allez voir que Dieu veut que nous devenions fermes. Votre foi est-elle ferme ? Ou votre foi est-elle dans le doute ? Chrétiens, ils sont toujours dans le doute. Ça fait peine vraiment, ça fait de la peine, comme vous voudrez. En tous les cas, une chose est sûre, l'adversité, elle existe. Les tempêtes, elles existent. Et le diable utilise les tempêtes que Dieu permet pour essayer de détruire notre foi. Vous rappelez ce que, dans l'épreuve de Job, c'était une grosse tempête ça ? C'était la grosse tempête. Qu'est-ce que le diable voulait ? Vous rappelez ? Est-ce que vous rappelez ce que le diable voulait ? Le diable voulait que Job maudisse Dieu. Vous rappelez ? Il te maudira. Il te maudira. C'était le défi que le diable a lancé. Parce qu'il savait que si Job maudissait Dieu, il détruirait sa foi. Le but du diable, c'était de détruire la foi de Job. Bien sûr, il n'y est pas arrivé, mais enfin, quelle tempête! Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais comment je traverse les tempêtes? Est-ce que vous avez traversé des tempêtes? Est-ce que vous en avez traversé dans votre vie, dans la santé, dans le foyer, dans la maison, dans l'église? Est-ce qu'on peut traverser des tempêtes dans tous les domaines? Eh oui. Dans vos tempêtes, la foi que vous avez eue, a-t-elle diminué ou a-t-elle augmenté? Parce que je peux vous dire que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens, dans les tempêtes, ils ressortent fermes, inébranlables. Il y a des gens, ils ressortent détruits. Eh oui. Quel est le degré de tempête que Dieu va permettre dans ma vie? Quelle est la tempête que Dieu peut permettre dans ma vie? C'est une question. Ouais. Parce que les tempêtes, elles sont là quand on obéit ou quand on désobéit? Mais voilà, c'est les deux. Jonas, il désobéissait à Dieu. Paul, est-ce qu'il désobéissait? Non, au contraire. Paul était dans la volonté de Dieu. Regardez juste avant. C'est important quand même. Vous savez, les chrétiens, souvent, ils sont dans un aveuglement pas possible. Ça fait que quand quelqu'un est dans la tempête, oh, il doit être dans le péché, lui. Il traverse une tempête, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans... Attendez, c'est dans Actes 23. Vous voyez? C'est important d'écouter Dieu, de savoir où j'en suis en ce moment, malgré la tempête qui se présente. Regardez, Actes 23, verset 11. C'est important, ces versets. C'est expliqué avant que Paul ne traverse la tempête. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc, il fallait bien que Paul aille à Rome. Moi, j'ai entendu des prédications où Paul s'était trompé. Mais les gens, comme ils ne disent pas la Bible, ils peuvent croire que cette tempête n'était pas dans la volonté de Dieu parce que Paul n'aurait pas dû aller à Rome. Mais moi, je peux vous dire que ça ne peut pas être plus clair. C'est pour ça, mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. Je vous assure, dernièrement, j'ai lu que Paul n'aurait... Et cette tempête, eh bien, s'il n'avait pas été à Rome, il ne l'aurait pas eu. Mais il fallait qu'il aille à Rome. Donc, on peut traverser beaucoup de tempêtes, même quand on est dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser et surtout pas juger quelqu'un parce qu'il traverse une tempête. En disant, oui, mais c'est comme Jonas. Jonas, il a connu une tempête parce qu'il désobéissait. Tu traverses une tempête, il doit y avoir du désordre dans ta vie. Ça peut arriver, bien sûr. Dieu veut des tempêtes. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Est-ce que ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Mais peut-être c'est comme ça. Dieu veut des tempêtes. Pourquoi? Parce que Hébreux 12, 27 dit ceci. Que les éléments doivent être ébranlés afin que les choses inébranlables subsistent. Vous le vérifierez. Hébreux 12, 27. Bien sûr que beaucoup de chrétiens ne voudraient pas essuyer des tempêtes. Si je vous propose, voilà, jusqu'à la fin de votre vie, vous n'aurez aucune tempête. Qu'est-ce que vous préférez? En avoir une ou deux ou aucune? Mais oui, bien sûr. Mais il y a des chrétiens qui n'acceptent pas les tempêtes. Parce qu'on peut dire, bien sûr, si je peux les éviter, je les évite les tempêtes. Est-ce qu'ils auraient pu l'éviter? Rappelez-vous le texte. Et oui, s'ils avaient écouté Paul. Mais on n'écoute pas un chrétien, on écoute les capitaines de bateau. Parce que les capitaines de bateau, ils sont compétents. Mais parfois, les chrétiens, ils ont du discernement. Et vous voyez, il n'a pas voulu écouter Paul. Ils auraient pu éviter la tempête. Mais ils n'ont pas écouté Paul, donc ils ont traversé une tempête. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'acceptent pas les tempêtes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rétrogrades d'ailleurs. Pourquoi des gens rétrogradés? Parce qu'ils n'ont pas accepté les tempêtes. Et quand une tempête s'est présentée, eh bien ils ont dit, en plus ils se sont moqués de la parole, ils ont dit oui, toute chose, la Bible dit toute chose concourt au bien, tu parles, c'est pas vrai. Mais c'est pas écrit comme ça en plus. C'est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut bien citer le verset en entier. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et lorsqu'on refuse les tempêtes, eh bien c'est qu'on n'est pas prêt à accepter toute la volonté de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'il nous faut pour devenir ferme, pour devenir fort, pour devenir inébranlable. Paul le dit, Pierre le dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mais vous n'avez pas connu des chrétiens qui sont tombés dans la tempête? Vous n'avez pas tombé des chrétiens qui sont tombés à l'eau? Hein? Il y en a. Hein? Quel degré de tempête va nous ébranler? Rappelez-vous votre dernière tempête. Vous rappelez quand est-ce que c'est? En principe, on se souvient des tempêtes. Vous vous souvenez de votre dernière tempête? Alors on peut se poser des questions. Ah bon, ce soir il nous parle des tempêtes, alors et la prochaine tempête, est-ce qu'il va y en avoir une premièrement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Le problème c'est pas de se poser la question est-ce que je vais arriver? Le problème c'est de dire est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? C'est là la question qu'il faut nous... Et pas la question est-ce que je traverserai? Non, si votre cœur est attaché à Dieu, vous traverserez toutes les tempêtes. On l'a pas chanté tout à l'heure? Oui, Paul n'est pas... Alors regardez, on revient au verset 10, acte 13, 27, verset 10. Paul n'est pas le capitaine. Il n'est pas le capitaine, il ne sentait pas ce voyage, mais il était dans la volonté de Dieu. Et c'est ça le plus important. Vous voyez, il peut y avoir des choses qui ne se passent pas comme cela devrait. Vous voyez, c'est pourquoi Paul avertit les autres. « Oh, mais je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier, il n'a pas voulu écouter le Paul. Donc, Paul, il est dans la volonté de Dieu. Et la question qu'il faut que nous nous posions ce soir, c'est pour ça que j'ai commencé en vous posant la question, est-ce que c'est important la volonté de Dieu? Ce soir, est-ce que je peux dire, mais oui, je suis dans la volonté de Dieu. J'obéis à Jésus-Christ. Si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous pouvez le tordre comme vous voulez. C'est pas possible. Il faut être sérieux. Si vous obéissez, voilà, c'est moi, je t'obéis. Je veux faire ce que tu me demandes. Paul avait reçu une parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi il est important de plonger ses regards dans la parole et dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux une parole. Je veux un réma. Je veux une pleine conviction. Et les gens, ils savent pas. On a parlé dernièrement. Il y a des gens. Moi, j'ai vu des gens. Je me suis marié. Je sais pas si c'est la volonté de Dieu. Je suis marié à cette femme, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Moi, je trouve que c'est dommage. Je n'ai pas jugé, bien sûr. Mais on pourrait multiplier les exemples. Alors, les tempêtes, c'est sûr que les tempêtes... Qu'est-ce qu'on sait, nous, des tempêtes? On n'est pas des capitaines de bateaux. On n'est pas des pros de la tempête. Est-ce qu'on comprend toutes les tempêtes qu'on traverse? Les tempêtes spirituelles. Est-ce qu'on les comprend, les tempêtes? Mais elles arrivent, les tempêtes. Elles sont là, et Paul, il est là, il est tout seul, seul chrétien, dans le bateau. Parce que vous savez, c'est une chose de traverser les tempêtes à plusieurs, ça n'est une autre d'être seul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, on est plusieurs, c'est plus facile, hein, quand on traverse une tempête, mais quand on est seul. Paul, il est dans la volonté de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Il a plus de sensibilité, bien sûr, que les professionnels de la navigation. Mais moi, quand je vois ces tempêtes-là, où pendant 14 jours, le soleil n'a pas apparu, je pense à tous ceux qui sont tombés, vous voyez. Vous en connaissez des chrétiens qui sont tombés? Parce qu'il y a des tempêtes, quand même, qui en font tomber quelques-uns à la mer. Et Paul, il est là. Et il faut se rappeler toujours de ces choses, que la tempête, elle vient. Il y a des moments difficiles. Dans un couple, est-ce qu'il peut y avoir des tempêtes? Dans un couple chrétien, est-ce qu'il peut y avoir des tempêtes? Ben oui. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas les tempêtes. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas un conflit avec un chrétien. Est-ce que ça peut arriver, un conflit avec un chrétien? Ben bien sûr. Mais il faut savoir deux choses. C'est que les tempêtes, même si elles viennent, c'est une chose. Mais que Dieu doit toujours être avec nous. Pour triompher de toutes les tempêtes. Comme on l'a chanté. Vous vous rappelez le troisième chant qu'on a chanté? Hein? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce que vous avez chanté? Vous le mettez, le troisième cantique, s'il vous plaît? Même si les tempêtes... Il était bien, ce cantique. C'était quoi, le troisième cantique? Voilà. C'était acte 27. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Est-ce que Dieu aurait pu l'éviter, cette tempête? Franchement, est-ce que Dieu... pouvait éviter cette... Mais bien sûr que oui, c'est évident, c'est Dieu qui apaise. Mais voyez, c'est la preuve que même dans la volonté de Dieu, on peut traverser des tempêtes. Et ne vous formalisez pas, et surtout ne jugez pas quelqu'un. En tous les cas, il fallait que Paul aille à Rome. Je ne sais pas où Dieu veut vous amener. Vous savez, cette histoire, elle est là, Moi, je réfléchis beaucoup à cette histoire. Parce que dans cette histoire, quand même, c'est le navire, comment il a terminé le navire ? Détruit. Vous rendez compte ? C'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout a été détruit. Sauf les hommes. Sauf l'apôtre Paul. S'il n'y avait pas eu l'apôtre Paul, tout serait mort. Ce qui prouve que l'importance des chrétiens dans une ville, l'importance d'une église dans une ville, l'importance des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont là et qui amènent la bénédiction. La tempête, elle arrive, Paul, il est là, il est rempli du Saint-Esprit, il a la foi. Et c'est ça qu'on doit développer par rapport à tout ce qui va arriver. Moi, je pense, ces jours-ci, je pense beaucoup aux pasteurs qui sont tombés. Je ne sais pas si c'est bien d'en parler, ou aux chrétiens qui sont tombés. Ça fait de la peine, quand même. Oui ou non ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris les tempêtes. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris que Dieu les contrôlait toutes, ces tempêtes. Donc Paul, on l'a lu, je suis parti de ce verset où il avait prié, il avait jeûné, donc il avait étudié la parole de Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, que si nous voulons traverser tout ce que Dieu permettra que nous traversions, par les tempêtes, mais on peut parler aussi des bénédictions. Les bénédictions sont aussi un danger pour beaucoup de chrétiens, croyez-moi. Mais Paul, il avait jeûné, il avait prié, il avait automatiquement étudié la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez étudier la parole de Dieu ? Vous retrouvez chez vous, seul, vous avez entendu un don spirituel qui indiquait que quelqu'un est en danger. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, donc ils ne peuvent pas être fortifiés. Donc quand ils vont traverser la tempête, eh bien, ils vont se retrouver à l'eau. Ils vont se retrouver à l'eau. Qu'est-ce que c'est dommage ? Chaque victoire est remportée grâce à la prière de la foi. Ne l'oubliez jamais. La prière, pas la prière, la prière de la foi. Jésus ne l'a pas dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Donc Paul était le seul chrétien sur ce bateau, loin de ses amis. Ça vous arrivera des fois, que vous soyez loin des vôtres. Vous l'acceptez ? Mes frères et sœurs, écoutez bien, parce que Dieu peut permettre que vous soyez loin de vos amis. Quand j'étais en Polynésie, moi, quand j'étais dans l'épreuve, ma femme me disait souvent, me dit, Gérard, cette tempête, il te faut la traverser tout seul. Même moi, je ne peux pas t'aider. Et le Seigneur le lui avait montré. Et c'était pendant 3 ans, j'étais tout seul dans cette tempête. Pourtant, ma femme était là, à côté de moi, mais elle me dit, non, il te faut la traverser tout seul, cette tempête. Même moi, je ne t'aiderai pas. C'est comme ça, il y a des moments dans la vie. Et vous savez, on peut être loin de ses amis, mais très proche du Seigneur. Et Dieu peut nous séparer des gens pour qu'on soit très proche de Dieu. Nous, des fois, on est vexé parce qu'on n'a peut-être pas les amis qu'on voudrait avoir. Et si Dieu le permettait, pour qu'on se rapproche davantage de lui, hein, voyez, plutôt que de bouder. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul lui-même dira plus loin qu'il y a 3 choses qui doivent demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous mettez, vous, qu'est-ce que vous attachez à ce mot, l'espérance. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'espérance ? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent « j'espère », en vérité, c'est exactement l'inverse. Ils espèrent, mais en fin de compte, ça veut dire qu'ils doutent. Vous le savez, ça. Mais Paul, il était rempli d'espérance. Et quand je citais dimanche cette prière de Paul, justement, qui a dit « Mais que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. » L'espérance, c'est un cordage qui vous empêche de tomber à l'eau. En préparant cette prédication, hier après-midi, je pensais à un témoignage qui était passé aux informations qui avait eu une grosse vague de plusieurs mètres qui était passée sur un atoll en Polynésie française. Et ils ont été sur l'atoll, il n'y avait plus rien. Ils ont trouvé un homme avec sa fille. Et ils se sont demandé, parce que les atolls, vous savez, il n'y a pas de montagne, c'est que du plat. Et ça m'avait ému parce que je pensais à ce témoignage. Mais comment vous êtes ? Parce que c'était les seuls survivants. Et le gars, quand il a vu que la vague arrivait, il a pris une échelle. Pas une autre, une échelle de 4-5 mètres. Il est monté un cocotier, à la hauteur de l'échelle. Il a pris un paréo, vous savez, un drap, quoi, un petit drap. Et il s'est attaché avec sa fille. Il s'est complètement attaché au cocotier.
Et la vague est passée. Bien sûr, là, ils ont été remués, mais ils sont restés attachés. Et la vague est passée. Et une minute après, c'était fini. Et il est resté en vie. Et quand je préparais cette histoire, je me disais, mais c'est pas ça l'espérance. Vous êtes tellement attaché à Dieu que vous ne pouvez pas vous en détacher. L'espérance ne trompe pas. Et je trouve que c'est dommage que tant de chrétiens soient pauvres en espérance. Moi, je crois que Dieu est le Dieu de l'espérance. Il donne de l'espérance. Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Eh bien, c'est bien. Si vous avez peur de l'avenir, franchement, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Votre Dieu, il peut vous dire, ne crains pas l'avenir. Je te tiens par la main, je te garde. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et je comprends pourquoi la Bible nous demande de chanter. Vous savez, on nous demande de chanter. Entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Moi, je comprends, nos chants doivent être remplis d'espoir. Ces chants qu'on a chantés sont des chants d'espoir. Vous voyez, comment c'était, la croix reste debout. C'est des chants d'espoir. Debout, sainte corde, oui, un chrétien, il peut se lever et combattre à genoux. Il peut avoir le cœur rempli de courage. Nous devrions toujours chanter avec ferveur. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, il est rempli d'espoir. Un chrétien, il est rempli de courage. David disait, mais je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et je voudrais peut-être regarder surtout au verset qui nous intéresse. Dans ce chapitre, au verset 22, acte 27, 22, on voit le cœur de cet homme, Paul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas vu le soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et regardez au verset 22, cette parole de ce chrétien tout seul sur le bateau. Il y a 275 personnes avec lui. Vous vous rendez compte, ça devait être un gros bateau. Hein. Ils sont 276 en tout. On l'a lu tout à l'heure, oui. Regardez au verset. C'est quand même important, mes frères et sœurs, parce que la leçon dans la tempête, c'est quoi? Eh bien, elle est là, au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas quel est le degré de la tempête. Mais mes frères et sœurs, donnez du courage. Est-ce que c'est le travail des pasteurs ou est-ce que c'est le travail de tous les chrétiens? Répondons réellement. Est-ce que les pasteurs doivent donner du courage? Ben oui, ben heureusement. Mais est-ce que ce n'est pas notre responsabilité chrétienne de nous exhorter à prendre courage? Ben oui. Moi j'aime ce verset, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais donner comme deuxième titre à la prédication, celui-ci. Je vous exhorte à prendre courage. C'est important, et grâce à la communion que Paul avait avec Dieu, il a pu donner du courage à 275 personnes. Quelle grâce d'encourager les autres. Mes frères et sœurs, que nous retenions cela de cette soirée. Je ne sais pas ce qu'on va traverser, je ne sais pas ce que Dieu peut permettre, mais une chose est sûre, Dieu permet l'adversité, Dieu crée l'adversité, Dieu crée l'abondance, Dieu donne toujours l'adversité pour nous donner de l'abondance. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lirez la suite. Vous lirez, en plus, ce n'est pas fini, parce que quand il arrivait sur l'île, c'était l'hiver, donc ils étaient tous mouillés. Ils ont fait du feu pour se réchauffer. Et Paul prend des brindilles et des branches pour remettre sur le feu, qu'est-ce qui se fait? Il se fait mordre par une vipère. Tu te dis, mais c'est... Et d'ailleurs, les gens, ils te disent, mais celui-là, il va mourir. Celui-là, vraiment, Dieu ne voulait pas de lui, voyez. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Et bien sûr qu'il a secoué la vipère dans le feu, et après, ils ont considéré cet homme comme un homme particulier. Mais non seulement, il y a 276 personnes sont sauvées, et en plus, il y a un réveil sur l'île de Malte. Le Seigneur, il aurait pu faire échouer le bateau en Afrique du Nord. Vous avez vu comment le Seigneur, il est bon. Mes frères et sœurs, oui, les tempêtes. Mes frères et sœurs, faites-lui confiance. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais restez attachés au bateau. Moi, je dis, je ne sortirai pas du bateau. Parce que vous savez, ils ont failli mourir. Mais ils étaient là, le bateau a été détruit, ça nous montre que les outils de Dieu, les outils que le Seigneur utilise, ils peuvent tous périr. Mais les chrétiens, ils demeurent. Les chrétiens, ils doivent aller au bout. Et je ne sais pas où Dieu veut vous amener. Peut-être que Dieu peut nous reprendre dans 15 jours. Mais Dieu peut nous reprendre qu'à l'enlèvement de l'Église. Vous n'avez pas envie que tout le bateau soit béni? Toute l'Église soit bénie, que personne ne sorte du bateau, que tous on soit là encouragés et que nous nous encouragions les uns les autres. Franchement, mes frères et sœurs, ça fait mal au cœur quand il y a des chrétiens. Après, ça peut arriver d'avoir un moment de blues, comme on dit. Mais quand même, d'une manière générale, on devrait tous s'exhorter les uns les autres. Est-ce que c'est écrit « exhortez-vous les uns les autres » chaque jour, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour? Ben oui, c'est écrit. « Exhortez-vous les uns les autres » chaque jour. Chaque jour, et s'exhorter, c'est impossible de le faire si on ne reçoit pas du Seigneur. Mais Paul, il le savait, il fallait qu'il aille à Rome, tout a été détruit, tout le matériel, tout le bien matériel ont été détruits. Et Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, mais il gardera ses enfants. Tous ceux qui marchent avec lui, tous ceux qui prennent courage, tous ceux qui se nourrissent, tous ceux qui écoutent. Et c'est vrai que si le capitaine l'a dit, mais si j'avais su, j'aurais écouté ce chrétien-là. C'est bien d'écouter les conseils des chrétiens. Si on vous donne des conseils, parfois, écoutez-les. Écoutez-les. Si les anciens vous donnent des conseils, écoutez-les parfois. Ça vaut la peine d'attendre et de ne pas s'engager vite pour prendre le bateau. Ça vaut la peine d'écouter. Mes frères et sœurs, oui, il y aura des tempêtes. Cette tempête, moi, j'aime bien la lire. Vous aimez lire Acte 27? Il y a des chapitres que vous préférez à d'autres? Allez, dites-moi-le. Moi j'aime bien lire cette affaire parce que je sais que ça m'encourage à moi en tant que pasteur à recevoir du Seigneur pour donner du courage aux autres, parce que je peux vous dire que le bateau, il va être secoué. Le bateau, je parle de la France, ça va être secoué, la France. Mais ceux qui sont au centre de la volonté de Dieu, ils seront fermes. Alléluia. Et on veut rester ferme. Parce que la colère, elle vient, on le sait. Le bateau sera peut-être détruit, le monde sera détruit, mais nous, on va rester attachés au Seigneur. Et on va s'appliquer à recevoir de sa part. Chaque jour, Seigneur, je veux me tenir devant ta face, parce que je veux faire du bien à ceux qui m'entourent. Déjà dans ma maison, mon épouse, mes enfants, je vais côtoyer des gens. Demain, vous allez côtoyer des gens. Tout à l'heure, déjà, rien que là, tout à l'heure, vous allez côtoyer des gens. Avec qui vous allez parler à la sortie du culte là? Avec qui vous allez parler? Tiens. Caroline, avec qui vous allez parler à la sortie? Avec moi. Mais vous allez me faire du bien, vous allez m'encourager. Eh oui, mais c'est ça. Ça commence là. Ça commence maintenant. Demain matin, peut-être que vous allez prendre le bus ou le métro. Peut-être que dans le bus, il va y avoir quelqu'un qui pense au suicide. Est-ce que ça peut arriver? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'avoir du courage? De se lever un peu plus tôt, de dire « Seigneur, donne-moi du courage. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage, dit Jésus. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Oh, peut-être on ne traversera pas tous des tempêtes difficiles qui dureront longtemps, parce que 14 jours, là, ça commence à faire. Hein. Mais une tempête, elle peut durer combien de jours?
Des années.
Ben, des années. Moi, je peux vous dire que j'en ai une qui a duré 5 ans et demi. Je trouvais que ça faisait long, on l'a fait. Mais il me l'a fallait. Peut-être que si j'avais été un peu plus intelligent, elle aurait duré moins longtemps. Parce que je pense que des fois, c'est nous qu'on allonge la durée des épreuves. Vous demanderez aux Israélites dans le désert et vous verrez si on ne peut pas allonger l'épreuve. Si on ne peut pas allonger le désert. Mais mes frères et sœurs, notre Dieu, il maîtrise tout. Et il serait bon, le temps passé, pas la peine, il serait bon de prendre les textes dans la Bible pour montrer que Dieu maîtrise tout. Jusqu'à dire que pas un oiseau ne tombe sans qu'il ne le veuille. Alors faites-lui confiance, mes frères et sœurs, que nous rentrions chez nous avec cette certitude que Dieu peut nous éprouver, mais il nous en tirera pour nous donner l'abondance. Cette abondance spirituelle. Je veux être abondant en espérance. Je veux être abondant en paix, de procurer la paix. C'est pas bien quand on est en paix tous ensemble? Il y a une sœur qui m'appelait dernièrement, ça m'a fait de la peine. Mais franchement, c'est grave. Hein. Elle m'a dit, Monsieur Gou, je ne vais plus dans mon église. Tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé. Je dis, mais vous prenez courage, allez leur faire du bien. Je dis, non, je ne me sens pas capable. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez. Elle me dit, quand je vais à l'église, je repars découragé. Tout le monde est découragé. Je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de dire, nous avons un grand Dieu, tout puissant. Il maîtrise tout. C'est vrai qu'on doit être soucieux de se poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ? Voilà, ça c'est la seule question. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous pouvez rester tranquille. Le Seigneur vous soutiendra et il vous gardera et il vous amènera, non pas à Rome, mais au ciel. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on était venus ce soir, pour prier, pour combattre. Mais mes frères et sœurs, obéissons au Seigneur, obéissons. Terminons en priant, s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes sous le regard de Dieu. Vous le savez ce que Jésus a dit, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que cette soirée nous accorde la joie de dire, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Et là, je peux vous dire que vous ne vous poserez pas la question sur les tempêtes, mais vous vous poserez la question, qu'est-ce que Dieu va faire dans cette tempête ? Voilà ce qui se passe lorsque notre cœur est rempli d'espérance. Seigneur Jésus, nous te bénissons de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui, de nous avoir donné la faveur de rester dans le bateau. Nous voulons penser, Seigneur, à tous ceux qui l'ont quitté, tous ceux qui sont sortis du bateau, tous ceux qui sont tombés à l'eau. Nous croyons, comme tu l'as fait pour Jonas, que tu es le grand Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à récupérer ces gens qui sont tombés. Que dans cette assemblée, que dans ce bateau que tu nous as donné, nous ayons la grâce d'accueillir, de recueillir tous ces matelots qui sont tombés. Aide-nous, Seigneur, à être remplis de courage, afin que là où tu nous as placés, déjà dans cette église, entre nous, dans nos familles, auprès de tous ceux que nous devons côtoyer, nous puissions, comme l'apôtre Paul, donner aux gens du courage. Seigneur, merci parce que tu nous le donnes à profusion. Nous savons que les ruisseaux de Dieu sont pleins et qu'encore ce soir, tu es là pour nous aider à comprendre que toutes les tempêtes, tu nous en tireras pour nous donner l'abondance nécessaire pour faire du bien. Aide-nous, Seigneur, là où nous atterrirons, là où nous nous retrouverons, de faire du bien aux autres. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.